Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis ce soir à la salle polyvalente de Marolles-sur-Ourcq pour un concert de Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard intitulé « Pick and Jazz » dans le cadre des Musivals. Michel Serrier, directeur des affaires culturelles, nous explique comment la CCPV conçoit le développement de la culture sur son territoire.
Déjà, l'objectif, c'est de pouvoir annoncer, et plus qu'annoncer, que la culture soit pour tous et partout. Puis deuxièmement, comment faire d'une faiblesse relative, ne pas avoir de salle de spectacle, une force en justement en délocalisant les spectacles, en se promenant dans le Valois, dans les différents villages, en proposant des spectacles.
Ce soir, c'était Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard.
Exactement, deuxième programmation de Jazz en Valois. J'ai eu grand plaisir à le réinviter pour cette saison.
Il est revenu avec un acolyte.
Exactement, parce qu'à deux, c'est toujours mieux. Puis franchement, avoir la mine réjouie des spectateurs ce soir, je pense que le succès est rempli. Et effectivement, de les voir tous les deux, comme le disait Jean-Félix dans le concert, ils jouent pas forcément la même chose tout le temps, mais ça s'accompagne. Et puis quand ils sont habitués à jouer l'un avec l'autre, ils ont du mal à se séparer. Donc non, c'était vraiment un très très bon moment.
Un peu de votre duo, là, comment il s'est formé, Eric?
On se connaît depuis longtemps, Jean-Félix et moi, on s'est croisés pas mal de fois, et en tout cas parce qu'on avait effectivement un ami commun qui était Marcel Dali. Moi, j'organise des scènes ouvertes tous les mois depuis très très longtemps, et on invite des guitaristes, des musiciens de classe à chacune de ces soirées, et Jean-Félix a été invité plusieurs fois pour jouer dans nos soirées. Et puis un soir, je sais pas ce qui s'est passé, on s'est trouvé à jouer un ou deux morceaux ensemble, et on a senti un truc. On a senti un truc tout de suite, quoi, plus que musical, plus que rythmique, plus que un truc, quoi.
C'est un feeling.
Voilà, on a senti un feeling. J'aurais jamais osé dire à Jean-Félix, Jean-Félix, on fait un duo. Mais Jean-Félix m'a soumis l'idée, et j'étais ravi. Donc on a commencé à bosser. Enfin, au départ, chacun de notre côté, on s'est envoyé nos compos. Quand on a choisi les morceaux, Jean-Félix a rajouté une deuxième guitare sur mes morceaux. Moi, j'ai fait pareil sur ces morceaux, et on s'est retrouvé pour voir comment ça sonnait, et il y a eu un truc, quoi. Il y a eu un truc génial, quoi.
C'est vrai que c'est, moi, j'ai tout de suite senti, plus on avance plus j'avance dans l'âge, plus je veux aller vraiment directement là où ça se passe en termes de vibration, en termes d'énergie, en termes de bienveillance, en termes d'écoute, etc. Donc, pour moi, la notoriété est beaucoup moins importante que le talent, et si les deux allaient de pair tout le temps, ça serait beaucoup plus simple. Malheureusement, c'est pas le cas. Éric a un talent de dingue, et des oreilles, il a des feuilles de salade, donc il est capable d'accompagner n'importe qui au pied levé, il a un toucher, et puis surtout il a une forme d'humilité qui fait qu'il va faire vraiment ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire, c'est-à-dire qu'il va se placer dans un espace musical qui doit être le bon. Donc s'il faut envoyer, il envoie, mais s'il faut être hyper discret et faire que quelques notes, il le fait aussi. Et c'est, pour moi, le bon goût, c'est vraiment capital. Et ça faisait plusieurs fois que je le voyais jouer un petit peu avec tout le monde, où j'avais vraiment noté ce qu'il était capable de faire. Et je le connaissais depuis bien avant, et il jouait dans un groupe qui s'appelait
Les
Super Piqueurs. C'était très arrangé, et il jouait très bien, mais je n'avais pas perçu ça parce que il n'y avait pas cet espace de liberté qu'il avait quand il jouait comme ça un petit peu avec tout le monde.
Donc il y a les morceaux d'Éric et les morceaux de Jean-Félix. Comment on fait pour se raccrocher à un morceau qui est déjà écrit par l'un ou l'autre?
En fait, c'est une
ou
forme...
est-ce qu'il est réécrit, le morceau, ou pas?
Non, généralement, on a essayé de garder l'esprit de chaque morceau. Il n'y a pas vraiment eu de modification sur les compositions originales. On a pris un vraiment... Moi, j'ai pris un réel plaisir analyser les magnifiques compos de Jean-Félix et puis de rajouter une deuxième guitare. Alors il faut évidemment respecter un petit peu le style, l'esprit, mais on analyse un petit peu l'harmonie et puis on met du contre-champ, on essaye de faire quelque chose qui sonne bien pour deux guitares. Effectivement, la compo originale, c'est deux mondes différents, quoi. On a un morceau pour une guitare et un morceau pour deux guitares, c'est carrément autre chose. Ouais. Mais on arrive à quelque chose que...
En fait, il faut arriver à recomposer sur une composition, en fait. Et faire en sorte que la deuxième guitare ne soit pas une pièce rajoutée pour rien, qu'on n'ait pas un effet chewing-gum, on rajoute un chewing-gum sur un chewing-gum et on perd le goût. Mais au contraire, trouver un moyen pour qu'on ait l'impression, du coup, que le morceau a été écrit pour deux guitares.
C'est ce que je voulais dire, parce que quand on écoute... On n'a pas l'impression que ça a été écrit pour une guitare. On a l'impression que ça vous avez écrit ensemble, quoi.
Non, mais après, ça marche sûrement pas avec toutes les compositions, hein. Mais en tout cas, on a fait les choix.
On a fait les choix qui. Et en plus, le choix.
Qui allait bien.
Et le choix est passé aussi. On s'est dit tout de suite qu'il fallait choisir les morceaux qui nous donnaient envie. Parce que forcément, les morceaux qui nous donnaient envie, c'est plus simple pour proposer des choses plutôt que être obligé de dire j'aimerais vraiment que tu fasses un truc. Et si on le sent pas, on arrive toujours, mais c'est pas pareil. Le morceau qui donne envie, forcément, c'est comme si on avait déjà trouvé, parce qu'on a envie de s'y mettre, le morceau nous parle, on a envie d'amener des choses. Effectivement, le but, c'est qu'on ait vraiment l'impression que ce soit écrit au départ pour deux guitares.
Mais il y a une entente complète où il n'y a pas de distension. Quand Jean-Félix, il dit, moi, je voudrais jouer ce morceau-là d'Éric, et plutôt qu'un autre.
Non, on respecte les choix de chacun, puis tous les morceaux qu'on joue, on a vraiment envie de les jouer.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a tellement de choix, il y a tellement de... Alors après, évidemment, on compose un programme, donc on fait attention qu'il y ait un équilibre entre les morceaux un peu rapides, les morceaux un peu lents, etc., pour ne pas perdre l'attention des gens. Un programme, ça se construit aussi pour que les gens soient aussi... Donc on fait attention à l'équilibre, à cet équilibre-là, mais exactement comme on l'a fait pour l'album. Pour que la deuxième guitare ait un intérêt, il faut que celui qui l'écrive ait envie de le faire. Ça, c'est la première des choses.
On peut parler techniquement du picking maintenant, parce que là c'est une technique un peu particulière quand même de jouer, jouer de la guitare.
Oui, le picking c'est vraiment au départ, c'est une technique, si ce n'est inventée, en tout cas mise en valeur au départ par deux guitaristes, surtout c'était Merle Travis et Chet Atkins qui ont été les deux phares de cette technique. Et le principe en fait c'est tout simplement, pour faire simple, le pouce de la main droite fait un petit peu ce que la main gauche d'un pianiste ragtime fait, c'est-à-dire une espèce de pompe, comme on dit, ou ce que fait une contrebasse quand on accompagne. Donc du coup, ça donne vraiment, en plus en étouffant les basses, ça donne vraiment l'impression, quand on est tout seul, qu'il y a deux guitares qui jouent. Et après, en gardant ce principe-là, on peut faire en sorte que le pouce fasse autre chose que ce qu'on appelle des basses alternées et fasse une vraie partie indépendante. Et du coup, on peut faire en sorte que le pouce de la main droite fasse comme la main gauche du pianiste, c'est-à-dire que se mette à chanter aussi des notes et à créer un contrepoint qui fait qu'on a une basse qui va jouer une certaine partie et les autres doigts qui vont jouer une autre partie, et on a vraiment l'impression de deux guitares qui jouent en même temps. Donc ça fait que la guitare devient un véritable instrument polyphonique comme le piano, et pas uniquement du note à note en médiator comme on l'entend. Et donc du coup, ça, pour peu qu'on mette en plus deux guitares qui font un petit peu ce travail là, on a un véritable orchestre en fait.
Donc on joue plus avec un médiator quand on joue comme ça.
Quand on joue comme ça, non, parce que le but du jeu, c'est de jouer au doigt. Ouais. Donc on a 4 doigts pour jouer, voire 5, il y en a qui en utilisent 5. Bon, maintenant, il se trouve qu'on a des morceaux dans lesquels on improvise. Donc moi, j'aime bien improviser au doigt, mais aussi au médiator. Donc ça m'arrive de prendre un médiator. Mais je suis pas en picking. On appelle ça plutôt ça le flat picking. Voilà.
C'est ça, ce que vous avez joué à la fin, là.
Voilà. Par exemple, ça, ça s'appelle du flat picking. Et c'est, les gens qui ont fait connaître ce style sont Doc Watson ou Tony Rice, voilà.
Dans les morceaux que vous jouez, quelle est la part d'improvisation ?
Oh ben pratiquement dans tous les morceaux, en fait. Et c'est ça, d'ailleurs, d'où le nom, d'ailleurs, de Pick and Jazz.
Il y a juste une trame, il y a juste une trame
d'écriture.
Il y a des morceaux qui sont extrêmement... mais en fait, il n'y en a aucun où tout est écrit du début à la fin. Mais en fait, on a vraiment construit le duo comme ça, c'est-à-dire on aime tous les deux arranger, composer, et on aime tous les deux improviser. Et c'est rare en général. Enfin, moi, en tout cas, dans tous les guitaristes avec qui j'ai joué, en général, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ou c'est très écrit, ou c'est très libre. Et moi, j'adore les deux. Donc c'était aussi un élément de rencontre pour moi avec Eric, parce qu'on avait la même approche. Donc du coup, on a un énorme plaisir à préparer à la maison un arrangement qu'on va rejouer pratiquement tout le temps de la même manière. Et après, on part en impro, d'où le nom d'ailleurs de Pick and Jazz, c'est-à-dire ça veut dire à la fois arrangement et liberté quelque part. Mais dans tous les morceaux, il y a des plages d'impro.
Donc Eric, si je reviens demain voir le spectacle, il sera différent.
Oui. Ah oui, complètement. Oui, tout à fait, ouais. On est quand même improvisateurs tous les deux, donc on a besoin de ça, oui. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des ouais, je jouer tous les soirs la même chose, que tout soit écrit tous les soirs la même chose, c'est pas possible pour moi, c'est pas possible. Oui.
Donc, est-ce que l'impro, pour finir, est-ce que l'impro, elle va avec le public ? Suivant le public, est-ce qu'on a...
En fait, il y a beaucoup de paramètres. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question, mais il y a beaucoup de paramètres. Il y a d'abord notre état, parce que l'état physique, ça joue. On peut être moins concentré, on peut avoir moins d'énergie. Forcément, si on a moins d'énergie, c'est pas qu'on va jouer moins bien, c'est qu'on va jouer différemment. On va aller moins vers quelque chose de moins de virtuosité et plus. Donc c'est pas pour ça que ça sera moins bien ou mieux, ça sera juste différent parce que ça va suivre notre état. Ça dépend aussi beaucoup du son qu'on a sur scène. C'est-à-dire que là, comme ce soir on avait un très bon son, forcément comme on s'entend très bien, on peut nuancer, on sait que l'autre entend exactement ce qu'on fait, même quand on joue pas fort, etc. Donc il y a une qualité d'écoute qui fait que forcément on joue autrement. Et évidemment les gens aussi, c'est-à-dire que l'énergie qu'on reçoit si on ne reçoit pas d'énergie, on n'est pas nourri non plus. Donc on a besoin aussi de sentir que ce qu'on fait est perçu par les gens. Et du coup, ça nous auto-alimente. Si on sent que c'est perçu, du coup, on a envie de donner encore plus. On donne plus, les gens reçoivent encore plus, etc. C'est une espèce de machine comme ça, qui n'est pas définissable, mais qui, en termes d'énergie, que nous, on ressent sur scène.
Pardon, c'est une question de confiance, en fait, avec le public ?
Disons qu'on est... C'est une question de confiance, oui, bien sûr. Mais en tout cas, on n'est pas dans le même état pendant les moments où on improvise et pendant les moments où on joue quelque chose qui est écrit. Et ça, le public le sent. Le public sent... Même nous, on n'a pas les mêmes regards quand on est dans les phases d'improvisation et quand on est dans les phases de quand on récite ce qui est écrit. Donc le public le sent, c'est sûr. Et on sent bien qu'il le sent, quoi.
Est-ce qu'il y en a qui peut se faire surprendre par l'autre dans les impros?
Oui. Ah oui, parce que il y a toujours un moment où
on voit dans les regards.
Oui, parce qu'en fait, parce qu'on va, pour être honnête, même dans les parties écrites, des fois on s'envoie des trucs. Voilà, donc c'est aussi pour nous une façon de s'envoyer des clins d'œil.
On voit dans le public les clins d'œil ou les choses comme ça. On se dit tiens là.
Oui, on s'amuse, mais. En fait, tous les moments de liberté sont importants dans la mesure où après on se retrouve à un repère. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est pas on fait pas n'importe quoi où d'un coup on va entre guillemets manquer de respect à l'autre dans la mesure où d'un coup on se dit moi je fais ce que je veux, il se débrouille. On est toujours un duo. Donc quand on s'envoie quelque chose, l'autre répond. Mais c'est comme une discussion, c'est comme une conversation. Je sors une idée. Ah tiens, c'est intéressant, mais ça peut être. Moi je suis pas d'accord avec toi. Je vais plutôt l'envoyer comme ça, etc. C'est une discussion, c'est une conversation. Et forcément, comme toute conversation, quand il y en a un qui parle, l'autre est censé écouter. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à aucun moment. On va essayer de surjouer pour parler plus fort que l'autre, comme il peut y arriver dans les conversations. C'est là où l'écoute, elle est vraiment parfaite.
Bon, j'espère qu'on va se revoir bientôt, alors.
Nous, avec grand plaisir. En plus, moi, je viens de me rendre compte qu'il y avait un nid de guitaristes ici, donc nous, on adore ça, quoi.
Ouais, avec grand plaisir.
Depuis Marolles-sur-Ourcq, c'était Hervé qui assistait au concert Pick and Jazz de Jean-Félix Lalanne et Éric Gombard. Bonne écoute sur RVM 93.7.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.